Voilà, du coup, bienvenue à Paray-le-Monial, bienvenue à chacun dans le sanctuaire du Sacré-Cœur. Ici, comme vous le savez, Jésus est apparu, il a montré son cœur brûlant d'amour, et surtout, il a exprimé son désir ardent de communiquer cet amour, d'enflammer nos cœurs. C'est comme si Jésus nous disait « Mais regarde mon cœur, il peut en être de même pour le tien. » Le Seigneur ici fait grâce, et on peut entrer dans ce temps qui nous est donné pendant ce week-end par un acte de foi. Oui, le Seigneur fait grâce. Oui, le Seigneur va me faire grâce. Oui, je vais partir de ce week-end différent de la manière dont j'y suis arrivé parce que le Seigneur m'aura visité. Ici, le Seigneur nous dit que son cœur est brûlant d'amour et qu'il veut communiquer ce feu. Alors, dans la première partie de mon topo, ce sera une forme d'introduction, mais déjà un peu longue, et qui, en quelque sorte, pose les principes de la suite, qui est une révision de vie, avec théoriquement une dizaine de points. Et donc, le principe de la révision de vie, c'est que notre vie, c'est très étendu, la vie. Il y a beaucoup de choses. Donc, évidemment, ces 10 points choisis, c'est pas exhaustif, mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sera... Il y a une dimension un peu fastidieuse, je pense, pas forcément de liste, mais en tout cas de passer quand même d'un sujet à un autre sans vraiment approfondir. Il y aura aussi un côté un peu frustrant. Je m'en excuse, j'espère que ce sera quand même un peu utile. Alors, dans cette première partie introductive, il y a 5 points que je voudrais aborder. Le premier, c'est que nous fêtons, ce week-end, les 100 ans de la fête du Christ roi. Cette fête... Elle vient de la demande d'une habitante de Paray-le-Monial, Marthe de Noyat, il y a un peu plus de 100 ans, parce qu'il lui a fallu un peu de temps pour convaincre le Saint-Siège de proclamer cette fête. Elle vient, et quand elle est instituée en 1925, donc, elle est intrinsèquement liée au Sacré-Cœur, c'est la célébration du règne du Sacré-Cœur. D'ailleurs, Pie XI, qui est le pape de l'époque, il déplace à cette nouvelle date le renouvellement de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur, qui avait été... proclamée, faite par le pape Léon XIII en 1899. Et chaque année, on renouvelait cette consécration, d'abord à la fête du Sacré-Cœur, et puis à la fête du Christ-Roi, parce que c'est vraiment le règne du Sacré-Cœur. Cela pour dire qu'il y a un lien très fort entre le Christ-Roi et le Sacré-Cœur. Et vous êtes à la bonne place pour fêter le Christ-Roi et pour fêter son anniversaire. 100 ans, c'est pas mal. Bon. Vouloir le règne du Christ... Être ici à Paray-le-Monial pour fêter le Christ-Roi, c'est vouloir que s'accomplisse pour moi ce geste de Jésus envers Sainte Marguerite Marie, qui est représentée depuis quelques mois derrière moi sur ce nouveau tableau. Il prend son cœur, il le plonge dans le sien et le lui remet tout enflammé. D'une certaine manière, on peut dire, sans se tromper, qu'il n'y a que comme ça que grandit le règne du Christ. Cela a une incidence directe sur nous. Et c'est mon deuxième point. Je le dis avec le pape François dans Dilexit Nostra numéro 2. Cette citation est sur le document que vous avez reçu, que j'ai mis sur le WhatsApp. On utilise souvent le symbole du cœur pour parler de l'amour de Jésus-Christ. Certains se demandent si cela a encore un sens aujourd'hui. Et peut-être pour certains d'entre vous, le Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur, enfin le cœur, tout ça c'est bien pour les jeunes filles, mais enfin bon, une fois qu'on a grandi... Eh bien voilà. Or, lorsque nous sommes tentés de naviguer en surface, de vivre à la hâte sans savoir pourquoi, de nous transformer en consommateurs insatiables, asservis au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence, nous devons redécouvrir l'importance du cœur. Nous devons redécouvrir l'importance de notre cœur, vouloir vivre au niveau de notre cœur. On pourrait dire retrouver notre intériorité. Ou de la profondeur pour notre vie. On peut le dire aussi en disant « laisser notre cœur vivre ». Notre cœur, ce n'est pas nous qui le paramétrons, ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce n'est pas nous qui décidons de sa puissance de vie. Nous le recevons de Dieu. Et on peut le laisser vivre, le laisser se déployer, le laisser prendre toute sa mesure, c'est-à-dire ressembler de plus en plus à celui de Jésus en union avec lui. C'est le chemin pour nous-mêmes. Et c'est aussi le chemin vers nous-mêmes. C'est aussi ce qu'aujourd'hui nous devons le plus au monde. Ce que nous devons au monde, c'est redécouvrir notre cœur pour que le monde puisse redécouvrir son propre cœur. Tout tout le chapitre 1 de Dilexit Nos, l'héritage, la dernière encyclique du pape François, parle de ça. C'est vraiment un très beau chapitre qui, précisément, donne beaucoup de pistes, ou donne beaucoup d'indications sur comment redécouvrir notre cœur, l'intérêt de redécouvrir son cœur. Ça n'est pas le sujet de mon propos. Du coup, je vous renvoie juste à cette lecture et cette méditation. Le pape, nous l'entendons, dénonce des obstacles. Naviguer à la surface de soi-même et des choses, vivre à la hâte, nous transformer en consommateurs insatiables, être asservis au rythme du monde, du marché. C'est de fait principalement sur cela que nous allons nous pencher ce matin, les obstacles. Pas exactement avec les mots du pape, mais au moins selon son esprit. Essayer de mettre en lumière des obstacles, des attachements, pour prendre la décision de faire un pas, d'avancer. Et je voudrais citer ici Marguerite Marie, quand elle entre dans la vie religieuse, c'est-à-dire quand elle entre dans la vie pour le Seigneur. Et je lis le premier texte qu'elle envoie à son ancienne supérieure, la mère de Sommez, enfin qu'elle écrit pour sa supérieure, c'est aussi dans le document qui est sur WhatsApp. Elle écrit « Ayant passé quelques mois de mon noviciat, ça fait quelques mois qu'elle est là, sans me pouvoir détacher de quelque affection particulière, elle a une affection particulière, qui mettait beaucoup d'obstacles à l'amour que mon bien-aimé désirait de moi. C'est un obstacle à l'amour que le Seigneur attend d'elle. Et m'en ayant reprise intérieurement plusieurs fois, sans que je m'en voulusse corriger, il me fit ce reproche, un soir à l'oraison, qu'il ne voulait point d'un cœur partagé, et que, si je ne me retirais pas des créatures, il se retirerait de moi. Cela me fut si sensible que je le priai de ne me laisser de pouvoir que pour l'aimer, lui promettant que je ferais mon possible pour me détourner de tout ce qui me pourrait séparer de lui. » Donc, elle a une affection particulière. Ici, on le sait par ses contemporaines, c'est en fait une affection pour une autre sœur de qui elle se sent proche et c'est une sécurité pour elle. De fait, pour Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie, dont les reliques sont à la chapelle où nous aurons la messe, l'arrivée au monastère n'est pas évidente. Elle est plus âgée que les autres, elle est en décalage, parce qu'elle a une vie spirituelle forte, déjà très assise, parce qu'elle a des grands désirs, alors que beaucoup d'autres sont encore un peu précisément à la surface d'elle-même, comme le dit le pape. Et puis tout simplement, humainement, tout est nouveau pour elle, donc voilà. Et alors, il y a cette sœur de qui elle se sent proche, avec qui elle s'entend bien, et ça lui donne de la sécurité. Comment ça se passe? En fait, on n'en sait rien, mais c'est certainement des regards, se mettre à côté d'elle aux récréations, rire avec elle. Enfin, il n'y a rien d'extravagant, ça c'est certain. Simplement des marques d'affection échangées. Rien qui, ici, aille contre les commandements de Dieu. Ce n'est pas de l'ordre du péché contre les commandements. Mais le fait de s'y attacher, de mettre là sa sécurité, de trouver là apaisement à ses inquiétudes, cela, écrit-elle, mettait beaucoup d'obstacles à l'amour que mon bien-aimé désirait de moi. Son cœur est partagé, selon les paroles de Jésus. Elle fuit dans des compensations. Elle le sait. Et le Seigneur lui a bien fait sentir, plusieurs fois même. J'insiste sur ce point pour dire, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire de grandes introspections, d'écrire tout ce que je vais vous dire et de vous laisser percuter par tous les points et toutes les questions que je vais soulever. Il ne s'agit pas de chercher avidement qu'est-ce que je vais réformer dans ma vie, parce que globalement, comme Sainte Marguerite Marie, nous savons tous déjà de quoi il s'agit. Nous savons globalement quels sont nos attachements. Nous savons qu'est-ce qui fait que notre cœur est partagé. Ça n'empêche pas de découvrir de nouvelles choses, c'est pas non plus... Mais en attendant... si nous nous connaissons un peu nous-mêmes, nous savons déjà quels sont nos attachements. Et Jésus lui pose un ultimatum. Si je ne me retirais pas des créatures, il se retirerait de moi. On peut l'entendre dans toute sa radicalité. On peut aussi l'entendre de manière peut-être un peu plus douce, un peu plus suavement, comme une opportunité, comme une occasion. Si je suis ici, c'est que Jésus m'offre l'occasion, il prend l'initiative de venir vers moi, comme il vient vers Sainte Marguerite Marie, pour m'offrir l'occasion de changer. Et Marguerite Marie répond d'une double manière. D'abord, elle dit « je le priais, je le suppliais ». Et je pense à cette prière de saint Claude de la Colombière dans son acte de consécration au Sacré-Cœur. Hein, il dit, ben voilà, je sens bien que tu m'appelles à l'oubli de moi-même. Et il dit, je m'y oppose, je le sens bien. Mais il me semble bien que je voudrais ne pas m'y opposer. C'est à vous, Seigneur, de tout faire. Il y a la reconnaissance de la résistance. Il y a aussi la reconnaissance de l'impuissance face à la résistance. Et puis, il y a une forme d'effondrement intérieur qui est de dire, mais Seigneur, c'est à toi de tout faire. Elle prie, elle supplie. Et sa prière prend ces mots-là, qu'on peut faire nôtres, hein, « Ne me laisse de pouvoir que pour t'aimer. » Comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dira à Jésus, « Mais prends ma volonté. Je vois bien que moi, j'en fais à la manière de sainte Thérèse, hein, mais bon, j'en fais n'importe quoi. Prends ma volonté pour qu'elle t'appartienne, pour qu'elle ne parte pas comme ça n'importe où. Ne me laisse de pouvoir que pour t'aimer. » Donc, priez, demandez, suppliez. C'est le Seigneur qui fait. Et si vous êtes venu ici à Paray-le-Monial, bah c'est d'abord pour ça, d'abord pour prier. Il y aura le temps d'adoration après ce temps d'enseignement. Il y aura l'adoration cette nuit. Il y aura de 14h à 17h cet après-midi un temps déjà pour se confesser, mais aussi pour prier, aussi pour marcher, pour méditer, pour réfléchir. En tout cas, vous êtes venu ici pour vous mettre à genoux devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, agis ». La deuxième chose, c'est « promettant que je ferai mon possible ». Elle n'est pas pélagienne, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas « c'est moi qui vais faire et puis Dieu fera le reste hein ». C'est-à-dire qu'elle compte sur la grâce de Dieu et « hors de toi, nous ne pouvons rien faire ». Ce sont les paroles des disciples dans l'Évangile. Hein. « Hors de toi, nous ne pouvons ». Non, c'est Jésus qui dit ça, pardon. Jésus dit ça à ses apôtres « hors de moi, vous ne pouvez rien faire hein ». Ce n'est pas « vous pouvez faire un petit quelque chose », c'est « rien ». Donc on prie. Mais aussi, elle promet, promettant que je ferai mon possible. Ça, c'est ce qui appartient à ce que nous pouvons faire. Mon possible. Quel est, je vais le dire comme ça, c'est une expression que vous connaissez, je pense, quel est le plus petit pas possible que je déciderai ce week-end ? Il ne s'agit pas de décider de monter l'Everest en sortant de ce week-end. Hein. C'est une image de monter l'Everest. Mais de se décider pour le plus petit pas possible et de demander au Seigneur de nous le montrer et nous de dire oui. Dans la suite, sainte Marguerite Marie évoque une situation où justement elle essaie de se corriger, de faire son possible, mais elle n'y parvient pas. Elle écrit « Mon Dieu, comment voulez-vous que je fasse puisque ma volonté est plus forte que moi ?» Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je vois très bien de quoi elle parle. Et elle poursuit, il me dit que si je la mettais, donc ma volonté, cette volonté dont elle parle, il me dit que si je la mettais dans la plaie de son sacré côté, je n'aurais plus de peine à me surmonter. Donc Jésus lui donne une solution, mettre sa volonté, qui est difficile, qui n'arrive pas à faire ce qu'elle voudrait faire, mais là, dans mon sacré côté. Alors, elle a cette prière, Marguerite Marie, ô mon divin sauveur. Mettez-l'y. Donc elle parle de sa volonté, disons ce mouvement intérieur qui la porte vers ce dont elle devrait se détourner et qui lui semble plus fort qu'elle. Mettez-l'y si avant, dans la plaie du côté, hein, dans le cœur de Jésus. Ô mon divin sauveur, mettez-l'y si avant et l'y fermez si bien que jamais elle n'en sorte. Ô mon divin sauveur, mettez-l'y si avant et l'y fermez si bien que jamais elle n'en sorte. Bon, c'est du français du XVIIe siècle, on n'écrivait pas comme ça, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Je voulais répéter pour que vous puissiez l'écrire, pour que vous puissiez faire vôtre cette prière, mais vous avez le droit de la réécrire avec du français du XXIe siècle. Vous n'êtes pas obligé non plus de le faire en TKT, SML, je ne sais pas quoi, bon, avec des vrais mots, quoi. Bon. Et elle conclut, « Depuis, je me sentis plus de force pour me vaincre et rien à l'avenir ne me semblerait difficile. » Pas mal. Ça fait envie, évidemment. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une formule magique, mais il s'agit d'une attitude de cœur qui dit, et ça, c'est le grand secret, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Une attitude de cœur qui supplie avec ferveur et qui choisit de se blottir dans le cœur de Jésus, humblement, confidemment, comme un enfant. « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est une parole, j'espère, qui habite souvent notre prière, qui remplit notre cœur et notre bouche. Nous savons bien aussi que « Jésus, j'ai confiance en toi » sont d'abord des mots. Avant que ça devienne une attitude, ben on voit bien combien on peut aussi se réformer. Jésus, j'ai confiance en toi. Pour sainte Marguerite Marie, ça veut dire que dès qu'elle a un instant de loisir, elle se retrouve devant le Saint-Sacrement pour se blottir dans le cœur de Jésus. Parce qu'elle a confiance en lui. Parce que sa vie, c'est Jésus, quoi. Bon. J'avance. Quatrième point. Une autre approche. Non, je vais zapper ce point-là. Je termine cette première partie en vous proposant que nous cheminions au cours de ce week-end vers la consécration ou le renouvellement de notre consécration au Sacré-Cœur. Je vous le dis maintenant, comme ça c'est aussi la possibilité de se préparer, de se disposer intérieurement. Se consacrer, ça n'est pas un aboutissement, mais plutôt la volonté et l'inscription d'un nouveau commencement. C'est dire au Christ, notre roi, « Oui, je veux t'appartenir. Je veux que tout mon être t'appartienne. Je veux que tu le rassembles, que tu l'unifies dans le feu de ton amour. Je veux m'appuyer sur toi seul, pour avancer, pour me convertir, pour me construire. » Se consacrer, c'est dire « Seigneur, prends les rênes. Seigneur, prends le pouvoir. Seigneur, je suis comme l'offrande sur l'autel. » Et je veux que tu sois le feu qui descend du ciel et qui consume mon offrande. » Du coup, ce n'est pas faire soi-même le chemin et dire « je suis arrivé et donc maintenant je peux me consacrer ». C'est dire « Seigneur, je suis disponible, je suis disposé. Seigneur, vas-y, mon cœur est prêt. » On peut s'y préparer avec cette prière de saint Ignace que je vous lis, qui a donné lieu au texte d'un chant que vous connaissez certainement et qui sera peut-être plus facile d'accès pour votre mémoire. C'est au numéro 234 des exercices spirituels qu'on trouve intégralement sur Internet. Internet, c'est comme WhatsApp, c'est sur votre téléphone. Voilà comment il écrit. « Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est tien. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi de t'aimer, dans le chant, hein, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi de t'aimer et donne. » Vous connaissez cette prière du Saint Curé d'Ars. Hein. Donne-moi seulement la grâce de t'aimer et de mourir en sentant que je t'aime. Trop beau. Donne-moi de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle me suffit. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Tu me l'as donné, à toi, Seigneur, je le rends, tout est tien, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle me suffit. On peut dire que c'est vraiment la raison pour laquelle vous êtes là, pour prononcer cette prière. Elle est, si on la prend au pied de la lettre, elle n'est pas si simple. Hein. Enfin, elle est très engageante. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Et en même temps, on sait profondément que c'est ça que notre cœur désire. La prier, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, eh bien, elle va se réaliser dans notre vie. Mais elle réalise un chemin qui est ce chemin de l'abandon de notre vie dans les mains de Dieu qui est bon, qui nous aime et qui nous conduit avec douceur. Numéro 234 des exercices spirituels, une fois de plus, on le trouve sur Internet. Alors, dans une deuxième partie, je vais aborder des points concrets de notre vie pour nous aider à faire cette révision de vie que nous sommes venus aussi faire ce week-end et nous aider à discerner nos attachements pour demander la grâce de nous en défaire et puis faire aussi le pas possible aujourd'hui. À la fois confier au Seigneur et aussi dire, eh bien, je veux faire tout mon possible. En tout cas, faire le pas qui est possible. Forcément, ce sera trop rapide, ce sera frustrant par certains côtés, mais comme j'ai dit, j'espère que ce sera aussi un peu utile. Le premier point, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai le temps de rien. Le temps passe trop vite. Comme disait le pape François au numéro 2 que j'ai déjà lu de Dilexit Nos, nous vivons à la hâte sans savoir pourquoi. Je peux vous lire aussi un extrait du numéro 9 qui est sur le document. nous évoluons dans des sociétés de consommateurs en série. Ça touche le temps, en série. Vivant au jour le jour, ça touche le temps. Dominés par les rythmes, ça touche le temps. Et les bruits de la technologie. Et qui n'ont pas une grande patience, ça touche le temps. Pour accomplir les processus que l'intériorité requiert. On est dans ce monde, complètement écartelé par ce monde. Et nous le subissons. Ce n'est pas seulement la question, vous voyez, des plages de temps. Du temps qu'on remplit, enfin, des cases dans notre agenda. C'est une question de rythme. C'est une question de patience. C'est une question de rapport au temps. De fait, les sollicitations sont énormes. Les informations disponibles, les moyens de communication, les possibilités de divertissement. Enfin, tout cela excède largement les capacités d'une vie humaine. Nous devons choisir. Et même, nous devons choisir beaucoup. C'est une énorme chance pour nous. Il faut bien voir qu'il y a 100 ans ou 200 ans, bah, les gens... en tout cas, nous, si nous y étions plongés, on s'ennuierait, quoi. Bon. Mais ça aussi, un inconvénient. C'est que choisir, c'est renoncer. Si nous devons choisir beaucoup, nous devons aussi beaucoup renoncer. C'est évidemment plus difficile que quand il y a moins de sollicitations. Alors, simplement trois choses sur ce point. La première chose. Si tu veux réfléchir au temps avec la Bible, eh bien, je t'invite à prendre l'épisode de la manne dans le chapitre 16 du livre de l'Exode. C'est le deuxième livre de la Bible, après la Genèse. Et tu verras que le temps, comme la manne, tu peux dire à la place de la manne le temps, tu verras que le temps est donné par la main de Dieu, à chacun selon son besoin, pour combler tout son besoin. Tu peux faire comme certains dans l'épisode de la manne, tu peux tirer pour essayer d'en avoir plus, tu peux avoir le sentiment d'en avoir pioché trop peu. Mais en fait, à la fin, comme le dit le texte, tu verras que Dieu pourvoit exactement à ton besoin du jour. Tu verras aussi que le bon critère de l'usage du temps, tu le découvres dans ce que tu fais de ton dimanche, le jour du Seigneur. Le critère de la manne, c'est ce que tu vas faire le jour du sabbat. La veille, tu dois en prendre le double. Bon. Es-tu le jour du Seigneur, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Es-tu alors avide d'accaparer le temps comme une possession, comme ton seul bien à toi, comme ce dont il faut jouir au maximum? Ou est-ce que ce sera d'abord le jour du Seigneur? Si cette question vous interpelle, il y a, mais pas pour ce week-end, c'est trop long, la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II, un Dies Domini, qui réfléchit précisément sur la question du dimanche. Donc, premier temps, pour réfléchir hein, sur ce point, la manne, la question du dimanche. Bon. Deuxième point, s'il faut choisir, et choisir beaucoup, c'est qu'il faut qu'il y ait des priorités. Je ne vous refais pas l'histoire des cailloux, des gros cailloux et des petits cailloux à mettre dans un bocal, mais je n'insisterai d'ailleurs que sur ce point. Si tu veux prier et que la prière n'est pas inscrite comme une priorité dans ton agenda, alors c'est un vœu pieux. Et j'ai écrit sur mon papier, mais c'est parce que je voulais lire un passage de Saint Ignace que je n'ai pas lu. Mais parce qu'à un moment, Saint Ignace considère trois hommes qui ont un attachement. Et il dit, le premier, il a beaucoup le désir de que l'attachement disparaisse, mais il ne fait rien, jusqu'à sa mort. C'est la mort qui apporte la solution. Si tu n'inscris pas la prière dans ton agenda, si tu veux prier, c'est la première chose, et que tu ne l'inscris pas comme une priorité dans ton agenda, c'est un vœu pieux, et c'est la mort seulement qui apportera une solution. Le temps ne se remplit pas. Il est plutôt comme la trame d'une tapisserie. Vous voyez ce que c'est, les tapisseries ? C'est un peu vieux, quoi, mais c'est comme les canevas, là, où on a du fil, on a une grille, quoi, puis on a du fil, et puis on fait des formes. Il est plutôt comme la trame d'une tapisserie qui permet de passer les fils, c'est-à-dire d'exprimer la vie, de laisser jaillir la vie. Le temps est donné pour que la vie jaillisse. Et si c'est ma vie qui jaillisse au bon moment, enfin, ben, en fait, le temps est toujours bien donné et bien... Et bien rempli, j'allais dire, mais le terme rempli, je ne l'aime pas trop pour le temps. Bon. Troisième point, consacrer du temps à Dieu n'est pas une perte de temps. François de Sales dit dans l'introduction à la vie dévote, si vous avez envie de construire votre vie spirituelle, que vous ne savez pas trop comment et que vous avez l'impression que vous avez besoin d'outils, lisez ça. L'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, le titre est un peu désuet. Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, une fois de plus, le titre n'est pas très glamour, mais le contenu est vraiment super. Et il dit, quand on est dans le monde et tout ça, qu'on a une vie dans le monde, il faut prier une demi-heure par jour. Si on a beaucoup de responsabilités et que donc on a beaucoup de choses à faire, il faut prier une heure. C'est une histoire qu'on raconte de Saint Jean-Paul II. Il est en train de prier à son oratoire, comme tous les matins, bon, ça, sur la genou, sur le nez. Et puis son secrétaire vient le voir, lui tire la manche, lui dit « Très Saint-Père, nous avons une question très importante. » Alors, bon, le secrétaire repart, il a fait le messager, quoi. Et puis le temps passe et rien ne bouge. Du coup, il retourne voir le Saint-Père, il lui retire la manche, il dit « Très Saint-Père, vraiment, on a une question très très importante, il faudrait que vous... » Jean-Paul II le regarde, il dit « C'est vraiment très très important. » Le gars a l'impression d'avoir ferré le poisson. Il dit, alors il tire. « Oui, 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 c'est très très important.
« Alors il faut prier plus. »
Pardon. Si c'est possible d'avoir un verre d'eau, je serais reconnaissant. Merci Laurent. Je le dis et je le répète simplement parce que je me suis dit en écrivant ce topo, il est possible que certains parmi vous aient besoin d'entendre ça comme une affirmation solide et une affirmation, une affirmation posée comme ça dans le topo par le prêtre présent. Prier n'est pas perdre son temps, mais en gagner. Prier n'est pas perdre son temps, mais c'est en gagner. Parfois, ça oblige à faire du ménage dans son emploi du temps. Mais par rapport à son devoir d'État, par rapport à ce qui, dans votre temps, vous nourrit, vous construit, vous déploie, vous rend fécond, fait que votre vie, elle est belle, qu'elle vous plaît, qu'elle vous donne de la joie et de la paix, prier n'est pas perdre son temps. Bon. Alors, j'en profite pour passer à un autre point qui s'appelle fatigue et repos. Le pape François prêchait, s'il vous plaît, demandons la grâce d'apprendre à être fatigué. Pas la grâce d'être fatigué, ça de toute façon on est fatigué, mais la grâce d'apprendre à être fatigué, mais bien fatigué. S'il avait été français, il aurait dit il y a la bonne et la mauvaise manière d'être fatigué. Merci beaucoup. Avoir un mauvais rythme de vie, fatigue. Les soucis, fatigue. Ressasser, fatigue. Le péché, fatigue. Beaucoup. Il y a aussi la bonne et joyeuse fatigue du service accompli. Il y a la mauvaise fatigue qui me mine intérieurement. À ce propos, le pape François dit encore, c'est écrit dans le document que vous avez, « Est-ce que je sais me reposer de moi-même, de mon auto-exigence, de mon auto-satisfaction, certainement aussi de mon auto-insatisfaction, de mon auto-référence ? La fatigue de soi-même, c'est peut-être la plus dangereuse, car elle est la plus auto-référentielle. C'est la déception de soi-même, mais pas regarder en face, avec la sérénité joyeuse de celui qui se découvre pécheur, et qui a besoin de pardon, qui a besoin d'aide. Celui-là demande de l'aide, et il va de l'avant. Du coup, ça se passe bien. Il s'agit de la fatigue qui porte à vouloir et ne pas vouloir. Le fait de tout risquer, et ensuite de regretter l'ail et les oignons d'Égypte, c'est-à-dire de s'être engagé pour le bon Dieu, puis en fait de se reprendre, de jouer avec l'illusion d'être autre chose, l'illusion des apparences, l'illusion de vouloir jouer sur deux tableaux, l'illusion aussi de la double vie. C'est donner et reprendre, c'est désirer et en même temps ne pas faire le pas, c'est faire le pas mais reculer, c'est être écartelé entre le désir de suivre le Seigneur puis en fait être encore engoncé dans le monde, etc. On peut du coup essayer d'identifier dans le temps d'adoration qui suit, dans l'après-midi, dans ce week-end, identifier ce qui nous fatigue, hein, le travail, les soucis, ça touche au futur, à l'avenir, les choses à faire qui touchent aussi au futur, le déséquilibre de vie, notamment le sommeil, le péché qui abîme mon unité de vie, le remords qui est une manière, qui concerne le passé, bon, etc. Aussi, considérer ce qui nous repose. Le pape évoque la tentation de nous reposer de n'importe quelle manière, comme si le repos n'était pas une chose de Dieu. Ce sont ces mots. Hein. Nous reposer de n'importe quelle manière, comme si le repos n'était pas une chose de Dieu. Je trouve ça intéressant Parce que je remarque que souvent, face à la question du repos, mon repos, la tentation est celle de le soustraire à tout discernement. Parce que j'ai droit au repos, parce que je l'ai mérité, alors j'ai droit à un peu n'importe quoi. Ou peut-être plus exactement, j'ai le droit de ne pas y réfléchir, de ne pas le mettre sous le regard de Dieu. C'est vrai que j'ai droit au repos, mais j'ai aussi droit à un repos qui me repose vraiment, qui ne soit pas juste une fuite, une évasion, une extraction de la réalité, mais un repos qui me respecte. Du coup, est-ce que je connais ce qui me repose ? Pour certains, c'est la solitude, le silence, les amis, l'affection. Le pape dit, dans la même homélie, hein, c'est une homélie de la messe chrismale de 2015, il dit « Seul l'amour donne du repos. Seul l'amour donne du repos. » Est-ce que je sais où je peux puiser cet amour authentique qui repose ? Du coup, la question des amis. Mais ça peut être aussi la nature, le sport, la musique, la culture, l'art, la lecture, tout ça. Est-ce que je connais aussi mes pièges ? Parce que parfois, je connais bien ce qui me repose, et puis en fait, j'arrive jamais jusqu'à ce qui me repose vraiment, mais je suis happé avant d'y arriver. Est-ce que je connais mes pièges, mes ornières, mes compensations ou décompensations ? Les séries, l'imaginaire, l'alcool, les jeux, le sport aussi qui peut en être. Ça peut être bien, mais ça peut être aussi une fuite. Le sexe. Comment je cherche à m'anesthésier ? Ou, inverse, mais souvent les deux choses s'embrassent très bien, comment je cherche l'excitation pour me rendre vivant ? Il y a, à travers tout ce que j'évoque là, bien des choses à présenter au Seigneur. L'occasion de demander son aide, douce et délicate. Demander la grâce aussi de faire un pas. Voilà, comme vous voyez, je passe rapidement, mais la grâce aussi, certainement, demander la grâce d'avoir de bons amis. Et c'est du coup mon troisième point, les relations. Une bonne amitié m'aide à faire le bien et à éviter le mal. Une mauvaise amitié, c'est le contraire. Elle m'entraîne au mal et elle m'écarte du bien. Comme vous le savez, notre cœur est fait pour aimer et être aimé. Notre cœur a besoin d'amis. Jésus a des amis et Jésus a besoin d'amis. Jésus a un ami qui s'appelle Lazare et qu'il visite. Il aime aller chez lui. Il aime les échanges d'affection qu'il a avec lui. Jésus aussi construit une amitié avec les 12 que le Père lui a indiqués et qu'il a appelés pour être ses apôtres. À un moment, il leur dit « Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis ». Il y a quelque chose qui se construit. C'est un chemin. Jésus aussi, ici par exemple à Paray-le-Monial, mais il y a bien d'autres lieux où on pourrait voir ça, Jésus demande mon amitié. Mon amitié compte pour lui. Jésus se plaint du sommeil des apôtres à Gethsémanie parce qu'il a besoin de leur soutien, il a besoin de ses amis qui l'entourent. Et le pape Saint Jean-Paul II parle de l'heure perdue de l'Église. Jésus ici demande réparation, il demande, s'il demande l'heure sainte, c'est précisément parce qu'il demande cette démonstration, cette d'amitié, ces marques d'affection qu'il attend de nous. Jésus a besoin d'amis. Nous aussi, notre cœur a besoin d'amis. Et c'est une question qu'on peut se poser. Qui sont mes véritables amis ? Ceux avec qui j'ai une amitié vivante, qui me soutient, qui nourrit mon cœur. Dans le livre du Siracide, qu'on appelle aussi l'Ecclésiastique, au chapitre 6, les versets 14 à 16, il y a ces versets que je trouve très beaux. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Je peux me demander, tiens, Germaine, qui est une bonne amie. Eh bien, Germaine, quel mot je peux mettre à moi, quelle expérience je peux mettre de notre amitié derrière cette expression « refuge assuré ». Je peux me poser aussi la question, mais comment moi je le suis pour mes amis ? Parce que c'est bien d'avoir des amis, c'est certainement bien aussi d'être bon ami à son tour. Un ami fidèle n'a pas de prix. Un ami fidèle est un élixir de vie. C'est la lecture qu'on lit pour Saint Lazare, qu'on fête dans ce diocèse, où on fête l'amitié de Lazare pour Jésus. Et on dit, Lazare a été pour Jésus un élixir de vie. Je trouve ça fascinant. Comment je construis ces amitiés ? Est-ce que je sais exprimer mon affection, ma gratitude, mon admiration ? Est-ce que je sais aussi exprimer mes besoins, mes tristesses, mes difficultés ? Devant qui je peux me présenter comme vulnérable ? C'est ça un ami, hein ? C'est pas seulement ça, je pense aussi, quand je parle de l'amitié, je pense toujours à Guillaumet, cet cet aventurier de l'aéropostale, ce pionnier de l'aéropostale qui écrase son avion en plein milieu des Andes et qui est perdu, quoi. Et du coup, il décide de marcher. Il est pris par le froid et cependant, il décide de marcher. Et puis, il marche autant qu'il peut. Il tombe épuisé et glacé. Et quelques jours après, il se réveille. Il a été recueilli. La première parole qu'il dit, « Ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. » Ce dont il parle, donc, c'est de ce qui a été plus puissant que l'instinct de survie. C'est de ça qu'il parle. « J'aurais pu être animé par l'instinct de survie, mais cet instinct n'aurait pas été suffisant pour ma survie. Autre chose m'a animé et m'a permis de survivre. Et c'est quoi ? J'ai pensé, si ma femme croit que je vis, elle croit que je marche. Si mes amis croient que je vis, ils croient que je marche. » C'est ça l'élixir de vie. C'est quand je pense à mon ami, à son amitié, à l'amour qu'il a pour moi, alors ça vaut le coup de me dépasser moi-même. Ça vaut le coup que ma vie soit belle, qu'elle porte du fruit. Ça, bon, on pourrait dire, c'est au vu de l'amour reçu, j'ai ce désir que cet amour il soit une puissance de vie en moi. Rendre amour pour amour. Je trouve ça très beau. A contrario, eh bien, on peut lire le numéro 6 de Dilexitnos, qui est sur le document aussi. Hein. L'apparence, la dissimulation et la supercherie abîment et pervertissent le cœur. Nombreuses sont nos tentatives, nombreuses sont nos tentatives pour montrer ou exprimer ce que nous ne sommes pas. Or, tout se joue dans le cœur. On y est soi-même, quel que soit ce que l'on montre extérieurement et ce que l'on cache. C'est la base de tout projet solide pour la vie, car rien de valable ne se construit sans le cœur. L'apparence et le mensonge n'offrent que du vide. Du coup, c'est aussi l'occasion de traquer dans nos relations la séduction, la captation, la comparaison. À qui je cherche à plaire ? Pourquoi ? Est-ce que je cherche à plaire ? À qui ? Pourquoi ? Le regard des autres, hein, quel impact il a sur moi ? Est-ce que je veux aussi le capter ? Il y a des amitiés problématiques. On peut utiliser les critères qui sont donnés au numéro 2 de Dilexitnos que je vous ai déjà lu. Naviguer en surface, il y a des amitiés. Elles ne sont que navigation en surface. Vivre à la hâte, eh ben, il y a des amitiés que je vis à la hâte, qui sont simplement comme ça, rapides. Transformer en consommateur insatiable. Est-ce que je consomme les amis ? Est-ce que je suis insatiable ? Est-ce que j'enfile comme ça un peu successivement ? Bon. Asservi au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence. Est-ce que je suis asservi parce que j'ai tellement besoin d'affection ? Je me laisse asservir en fait par des amitiés qui en fait ne me nourrissent pas, par des relations qui ne sont pas vraiment des amitiés, qui ne me nourrissent pas, qui sont des formes d'enfermement. Bon. On peut utiliser ces critères, on peut en utiliser d'autres. Ce sont aussi les amitiés enfermantes, les amitiés excluantes, les amitiés confidentielles. C'est beau de voir que Jésus, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, quand il parle de son ami Lazare, on lui dit « Ton ami Lazare est malade ». Et puis il parle un peu avec ses disciples, il dit « Notre ami Lazare ». Si c'est mon ami, je veux le partager, parce que ce que je vois en lui est tellement beau, tellement riche, que je veux que d'autres aussi puissent en profiter. Je veux que l'amour circule, que l'amour grandisse, que l'amour s'universalise. Si c'est juste l'amour à deux, ben en fait, c'est une prison à deux, c'est un égoïsme à deux, mais ce n'est pas le vrai amour. L'amour est toujours fécond. Alors, ben, cela peut nous inviter à faire un peu de ménage éventuellement dans nos relations. Pour ma part, je souhaiterais plutôt que ce soit une invitation à investir dans nos relations, à investir dans des relations choisies, dans des relations d'amitié. On ne peut pas être ami, comme j'en parle, avec 80 personnes. Ce n'est pas possible. Des amis sont des amis choisis. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres relations, par ailleurs. Hein. J'ai parlé de plusieurs types de relations, plusieurs qualités de relations. Mais en tout cas, d'avoir de vrais amis devant qui je peux être profondément moi-même, être vulnérable et me livrer en vérité, c'est un tellement beau cadeau. Il y a aussi dans notre vie des relations conflictuelles, pour bien des raisons, je ne fais pas la liste. Mais je veux juste dire à propos de ces relations conflictuelles qui peuvent être au travail, qui peuvent être dans notre famille, qui peuvent être aussi dans nos réseaux. Eh bien, la première chose, c'est... Merci. Accepter que cela existe. Si nous sommes appelés à l'amour des ennemis par Jésus, c'est que, de fait, dans notre condition limitée et pécheresse, nous avons des ennemis. Donc il faut accepter que cela existe. Rêver à une vie où il n'y a pas d'ennemis, où il n'y a pas de conflits, où il n'y a pas de contradictions, bah, c'est rêver à une autre vie que celle de la terre. Il faut aussi en accepter l'effet. C'est différent d'accepter que ça existe et d'en accepter l'effet. Oui, ça m'agace. Oui, ça vient me chercher loin. Oui, ça me réactive à mort. Oui, elle me fait mal. Oui, j'ai toujours le sentiment de n'être rien quand cette personne est là, etc., etc. Cela parle toujours plus de moi que de l'autre. Ça parle toujours plus de moi. Enfin, ça parle de ce que l'autre fait réagir en moi, et bien souvent malgré lui. Pas toujours, parfois, la relation s'est envenimée et du coup, on est à couteau tiré. Mais généralement, c'est malgré l'autre, malgré lui. Et quelqu'un doit se réveiller. 10h59, franchement, ça abuse. Mais je bénis le Seigneur que tu puisses dormir encore jusqu'à 11h. Tu verras, quand tu auras mon âge, c'est plus possible. Bon. Du coup, j'en étais à accepter les faits de ces relations conflictuelles, de ce que ça fait réagir en moi, de ce que ça parle d'abord de moi que de l'autre, quand je trouve « Ah, mais qu'est-ce qu'il est agaçant, ceci, 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 ceci. » Tout ça, ça dit que ça réactive quelque... Enfin, que son attitude a réactivé quelque chose en moi, que ça réactive une blessure, quelque chose qui est sensible, quelque chose qui est douloureux. J'ai pu mettre des mots dessus et ce serait intéressant de me pencher sur la question pour savoir qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là, qu'est-ce qui réagit et qu'est-ce qui a besoin d'être entouré, qu'est-ce qui a besoin d'être entouré de soins, d'être protégé, d'être consolé. Bon. Il est bon et même nécessaire de prendre conscience de ça. Et puis aussi, on n'est pas obligé de s'enfermer là. Aujourd'hui, c'est comme ça, je suis comme ça, je réagis comme ça, mais j'essaye, enfin, je veux avancer. Je me protège, je prends soin de ce qui est douloureux. Je cesse l'accusation de l'autre. Je prie pour lui, pour moi aussi, pour ce qui est douloureux, je bénis. Et puis, j'essaie de mieux percevoir ce qui se joue en moi. Et puis, je confie l'ensemble au bon Dieu. Quatrième point, cela me ramène à qui je suis. Et on peut commencer par notre histoire. Le Christ est-il le roi de notre histoire ? Alors, je vais zapper ce point, parce qu'en fait, il est écrit dans le document que je vous ai envoyé. Dans le document que je vous ai envoyé, il y a un texte, un très beau texte du pape François, une homélie du 7 octobre 2014, qui invite à prier avec son histoire. Il dit, en fait, Dieu est tellement... C'est pas normal de pas prier avec notre histoire, parce que Dieu y a agi. Il y a toutes les bonnes choses qu'il y a mises. Et puis, il y a aussi le salut qui s'est opéré chaque fois qu'il m'a délivré de mon péché, qu'il m'a délivré de situations compliquées, enfin bon, tout ça. Et de présenter notre histoire au bon Dieu, de relire notre histoire devant le bon Dieu. C'est l'occasion d'égrener le chapelet des grâces que le Seigneur a semé. Et il y a aussi un extrait de Dilexit Nos, le numéro 19, qui parle de ça. Il parle principalement de la Vierge Marie, sa manière de faire mémoire, et il dit, c'est la fin de ce numéro, hein, ce qu'elle conserve dans son cœur, ce ne sont pas seulement les scènes qui se sont passées, comme les souvenirs, comme des photographies des souvenirs, mais elle conserve ce qu'elle voyait, ce qu'elle ne comprenait pas encore, qui était pourtant déjà présent et vivant, et dans l'attente que cela porte son fruit. Dans la grâce que j'ai reçue du Seigneur, tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est comme des sources. Et le repasser, égrener ces événements comme on égrène les grains du chapelet, en fait, c'est se remettre en contact avec ces sources. C'est pas seulement des photographies, des souvenirs, mais c'est aller boire à la grâce qui s'est donnée et à la source de laquelle je n'ai pas tout bu. Quand la Vierge Marie contemple le mystère de l'incarnation, quand elle contemple le mystère de la visitation, quand elle se remémore la croissance de Jésus, la présentation au temple, ou bien Jésus qui a 12 ans, etc., il y a à la fois le souvenir, mais en fait, elle va puiser aussi à des choses qu'elle n'avait pas encore vues, qui se sont données à ce moment-là, qui sont comme une source, mais qu'elle n'a pas épuisée. Et elle y revient pour continuer à y boire. Donc, notre histoire est un tissu de grâce. Et du coup, voilà, je vous renvoie au texte, si cela, pour que vous puissiez cela vous appelle. Bon. Cinquième point. Mes blessures et mes échecs. C'est aussi écrit dans... Enfin, là, c'est plus des notes, mais je les ai mises quand même sur le document. Mais ça, je vais l'aborder. Les blessures, les échecs sont deux choses un peu différentes. Je vais surtout m'intéresser aux blessures. Ça touche au mal que j'ai subi. Et je peux montrer ici au médecin mes blessures comme le petit enfant qui n'a pas peur de les montrer à sa mère. Faire confiance au médecin. Je vous cite saint Augustin qui dit « Apprends à prier Dieu en t'en remettant au médecin pour qu'il fasse ce qu'il juge bon. À toi de déclarer la maladie, à lui d'appliquer le remède. Toi, contente-toi de garder la charité, car lui, il veut couper, il veut brûler. Si malgré tes cris, il ne cède pas à tes prières, continuant à couper, à brûler, à te faire souffrir, c'est qu'il sait jusqu'où s'étend la gangrène. Tu voudrais alors qu'il retirât sa main. Mais lui voit la profondeur du mal, il sait jusqu'où il faut aller. Il ne t'exauce pas selon ton désir, il t'exauce en vue de te rendre la santé. » Il y aurait beaucoup de choses à dire de cette citation qui parle, vous voyez, de quelque chose de la permanence d'une souffrance, parce que le Seigneur travaille, veut travailler en profondeur. Cette souffrance, c'est l'image de la blessure qui est prise par saint Augustin. Ça peut être ce que nous appelons les blessures du passé, ça peut être aussi d'autres choses, mais je ne vais pas faire le commentaire exhaustif de ce texte. Ce que moi je veux en tirer, c'est ça. Il y a des blessures dans notre vie qui durent. Je remarque que souvent, je ou nous cherchons une solution. Notre seule prière, d'une certaine manière, je suis un peu caricatural dans mon propos, bien sûr, c'est, vous voyez que ce topo est un peu à la serpe et manque de nuances, ça c'est certain. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Notre seule prière, notre seul vœu est que ça s'arrête. Alors que Jésus nous dit « Je suis le chemin, je suis avec toi pour une œuvre de vérité et de vie ». Par exemple, Saint-Claude de la Colombière, dont les reliques sont à la chapelle de la Colombière, ici, à Paray-le-Monial, dans sa grande retraite qu'il fait en 1674, juste avant d'arriver à Paray-le-Monial, et puis qui est l'aboutissement de ses 12 ans de formation, il se rend compte que son défaut principal, c'est la vaine gloire. Et ça, c'est lié à une blessure, parce que sa sécurité, il se sent exister dans le regard des autres, quand les autres l'admirent. Il se rend compte de ça. Du coup, il décide d'y renoncer. Il dit au Seigneur, je renonce à ce défaut. Mais c'est aussi une manière, c'est pas comme ça qu'il l'exprime, mais je l'exprime comme ça aussi ce matin, une manière de dire, Seigneur, guéris-moi de cette blessure, de cette insécurité, je renonce à cela. Dans la suite de la retraite, il constate que la tentation est toujours présente, qu'en fait, c'est toujours là. Du coup, il est tenté par le désespoir. Mais c'est une autre réaction qui finalement prend le pas, où il se dit « j'accepte le combat ». Il se rend compte en fait que ça ne dépend pas de lui. Lui, il décide de renoncer, il décide de passer à autre chose, il voudrait que ce qui est comme ça bouillant en lui ne soit plus bouillant en lui. Mais en fait, il se rend compte que ça ne dépend pas de lui et il accepte ce combat. Il accepte ce combat comme un chemin de vie, comme son chemin de sainteté. Ça me fait penser aussi à cette parole de Sainte Mechtilde, ou cette parole de Jésus. Enfin, Sainte Mechtilde dit à Jésus, je suis tombé encore une fois. Et je le place ici parce que nos blessures, souvent, on ne les aime pas parce qu'elles sont aussi le lieu non seulement de souffrance, mais elles sont aussi le lieu de péché, elles sont le lieu de comportements que nous n'aimons pas, de comportements qui nous semblent un peu tordus, quoi. Et elle dit, je suis à nouveau tombé. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu voudrais me priver de la joie de te pardonner, de te relever ? C'est un chemin de relèvement, un chemin de lumière, un chemin de victoire, un chemin, mais qui passe par une forme de combat. Saint-Claude accepte ce combat. Dieu seul est sage, Dieu seul connaît le bon chemin. Surtout, Dieu s'est engagé. Et il s'est engagé pour nous, pour qu'un chemin de vie soit toujours possible. C'est ça notre espérance, c'est ça notre foi. Notre foi, ce n'est pas que dans notre vie, tous les combats vont disparaître, que toutes les blessures vont disparaître, que tout ce qui est douloureux va disparaître, que notre passé va devenir, je ne sais pas, une histoire lisse, enfin bon. Non, notre espérance et notre foi, c'est qu'un chemin de vie est toujours possible, que l'amour est toujours possible. Le psaume dit, je ne sais plus lequel, mais « Devant toi, devant moi, tu as ouvert un passage ». Dans une vision de, en 1688, la dernière vision qu'elle a, Sainte Marguerite de Paris voit la Vierge Marie, c'est la vision qui est représentée à la chapelle de la Colombière, la grande fresque du fond. La Vierge Marie présente le cœur de Jésus comme le soleil de justice, celui dont le prophète Malachie, chapitre 4, verset 2, dit « Le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans ses rayons. » C'est le soleil de l'Eucharistie. Alors on peut présenter au Seigneur nos blessures. On peut approcher nos blessures de ses blessures, laisser ses plaies s'approcher de nos plaies, présenter nos blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Peut-être particulièrement nos deuils, nos échecs qui ne sont pas consolés. Les mettre dans le cœur de Jésus, comme saint Thomas, l'apôtre, en Jean chapitre 20, qui met toute sa tristesse de la passion, toute sa déception d'avoir abandonné Jésus, toute son incompréhension, « Mets ta main dans mon côté ». Et il trouve l'illumination, mon Seigneur et mon Dieu. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est l'expérience de Thomas. Guéri, ça ne veut pas forcément dire débarrasser. Ça veut dire y trouver un chemin de vie. Comme la plaie du côté de Jésus ne devient pas, ne se referme pas, mais elle devient une source de vie. C'est aussi laisser le Seigneur être le roi de mes péchés. C'est-à-dire laisser Jésus être le roi de miséricorde. Voir d'abord dans le péché pardonné, l'exercice de la miséricorde et de sa bonté. Cela demande un changement de regard. Naturellement, nous sommes portés à nous regarder nous-mêmes. Nous culpabilisons, nous avons honte. Et là encore, nous demandons d'être nous débarrassés. Débarrassés de ce péché. Et nous négligeons de regarder Jésus. De regarder Jésus offensé. Car le péché, ce n'est pas d'abord une question de culpabilité ou de règle, qui serait une règle que nous avons trahie. Mais le péché, c'est d'abord Jésus qui souffre. Regardez Jésus qui a déjà porté tous les péchés, par amour, pour m'en déposséder. Regardez Jésus, surtout regardez Jésus qui fait miséricorde. Regardez sa bonté. Alors, je vous lis quelques mots de Pierre Goursat. Pierre Goursat est enterré ici à Paray-le-Monial. On peut aller sur sa tombe, elle est au cimetière. Vous pouvez faire ça si vous voulez, donc entre 14h et 17h. Il est déclaré vénérable par l'Église. Ça veut dire que l'héroïcité de ses vertus a été déclarée et que la prochaine étape, c'est qu'il soit béatifié. Il écrit « On sait que Dieu nous aime, que ses sentiments ne varient pas, qu'il continue de nous aimer malgré nos imperfections et même si on a fait une blague, c'est sa manière de dire « Nous sommes tombés dans le péché, même si on a fait une blague, eh bien tant mieux. On vient s'humilier et puis il répare encore beaucoup mieux que si on n'avait pas péché. Alors c'est vraiment épatant avec lui. Ça nous donne de l'humilité. L'important c'est d'être un pauvre devant lui, vraiment. Et c'est toujours notre amour propre parce qu'on n'est pas content. Mais quand on a fait un péché, est-ce que c'est surtout parce qu'on a fait de la peine à Jésus qu'on a de la peine ou parce que notre amour propre nous dit « Zut, j'ai encore fait un péché ». Alors finalement, c'est toujours nous que nous recherchons. C'est l'image de nous-mêmes qui est blessée et c'est l'idéalisation de nous-mêmes qui est écornée. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Du coup, notre souffrance, elle est à côté. Au lieu de ratisser vos péchés, de les aligner, de les allonger, vous feriez mieux de regarder le Seigneur et de dire « J'ai fait une blague, c'est clair. Seigneur, tu m'aides, on repart. Ça m'a fichu un petit coup d'humilité. » Et en avant. Si à chaque coup vous aviez gagné de l'humilité, eh bien, je vous promets que vous ne pécheriez pas longtemps, parce que le démon aurait trop la frousse de ça. Si vous êtes d'accord, vous êtes sauvé. Si à chaque fois que vous péchez, vous avez gagné de l'humilité, automatiquement, vous gagnez à tous les coups. Le texte est donc sur le WhatsApp, je vous laisse relire, il y en a un peu plus aussi, mais c'est la même manière que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comprend la miséricorde, déjà saint Claude la Colombière le comprend aussi comme ça. Beaucoup, on pourrait citer beaucoup d'autres saints qui comprennent ce que, on pourrait dire, la raison de la permanence du péché dans notre vie et du péché récurrent dans notre vie. Parfois, on se plaint de confesser toujours de la même chose. Mais c'est parce que le péché est appelé à devenir un chemin dans notre vie, selon ce que décrit ici, c'est une manière de le faire, Pierre Goursat, comment le péché devient pour nous source d'humilité et comment il peut dire, si nous entrons dans cette démarche petit à petit, et puis voilà, avec des hauts, des bas, mais si nous entrons, on gagne à tous les coups. Et comme dit saint Paul, là où le péché abonde, en fait, la grâce surabonde. Nous avons des limites et il est bon qu'il en soit ainsi pour apprendre à être dépendant. Dépendant de Dieu et aussi, parce que ça ne passe que par là, en étant dépendant des autres. Si nous n'avons besoin de personne, nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Le Seigneur accentue, par exemple, dans sa vie, les limites de sainte Marguerite Marie, précisément pour que de mieux en mieux, de plus en plus, elle souhaite, elle désire être dépendante de Dieu. Bien souvent, nous désirons être parfaits pour n'avoir besoin de personne et pas avoir besoin de la miséricorde de Dieu, pour pouvoir nous présenter tout propre, tout beau devant lui. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse le bon Dieu, c'est que nous ayons besoin de lui et que sans cesse, nous voulions être en relation avec lui. Nous avons aussi des qualités. C'est le point numéro 7. Il me reste globalement 5 minutes pour les 3 derniers points. 4 derniers points. Bon, le point. Donc les qualités, c'est bien de les connaître, c'est bien surtout de rendre grâce. Aujourd'hui, mon point d'insistance, c'est de dire de les recevoir pour le bien de tous. Être homme, c'est, avec des tirets, être pour les autres. L'autre a le droit de bénéficier de mes qualités. Il s'agit d'un droit. Mes qualités ne sont pas un bien que je pourrais accaparer pour moi seul, et que je pourrais désolidariser des autres. Je les ai reçues pour les autres. En cela, elles appartiennent aussi aux autres. Je suis un intendant. C'est déjà ça, mais méditer ça, c'est déjà énorme. Hein. Au ciel, la communion des saints, c'est exactement ça. C'est que toutes les qualités des uns des autres appartiennent à tous et les qualités de la Vierge Marie nous appartiendront et celles du Christ nous appartiendront et ce sera ça notre plus grande joie. Je note aussi, nos qualités sont des causes de gratification. Je vais prendre un... Si je chante bien, eh bien, ça me plaît ça me gratifie enfin, de déployer ce don. Et si personne ne me demande jamais de chanter, ben, en fait, ça me vexe. Ce sont des lieux de gratification. Ce sont aussi des poids. Parce que si je chante bien, on va toujours me demander. Et à un moment, je dis, vas-y, pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande bon. À la fois, ça me fait plaisir et parfois, ça me saoule. Eh bien, c'est normal. Voilà, il suffit de le savoir et ne pas s'y arrêter. Si on me demande beaucoup, c'est parce que j'ai ça à donner. Et en fait, c'est bien comme ça. Et à la fois, c'est une joie. Et puis, parfois, c'est un peu pesant parce que donner... Ça peut parfois coûter. Et voilà, c'est bien que ce soit comme ça. Point numéro 8. Ah, je crois que j'ai dépassé l'heure, parce que ça... La sexualité. J'aime cette phrase de Freud, Sigmund Freud, qui dit « Celui qui promettrait à l'humanité de la délivrer de la sujétion sexuelle, quelque sottise qu'il dise, serait considéré comme un héros. » Celui qui promettrait à l'humanité de le délivrer de la sujétion sexuelle, quelque sottise qu'il dise, serait considéré comme un héros. Nous rêvons tous d'une sexualité pacifiée, sereine, transparente. Mais précisément, c'est le propre de la sexualité, c'est d'échapper au contrôle de la volonté. Ça ne veut pas dire qu'elle échappe complètement au contrôle, mais dans tous les cas, elle déborde toujours le contrôle de la volonté. Et... elle garde toujours une forme d'opacité, c'est-à-dire qu'elle échappe aussi au contrôle de la raison. C'est normal, c'est pour toujours, et c'est bon qu'il en soit ainsi. Cela peut générer de la peur, de l'angoisse, du trouble, du rejet. C'est normal aussi. Cela produit surtout de la pulsion, de l'inconfort, du débordement, parfois du péché. Ça fait partie de notre chemin. Alors, je dis seulement 3 choses... tout à fait frustrant, mais c'est comme ça. Seulement 3 choses. La première chose, nous n'avons que notre corps pour aimer. La manière dont nous engageons notre corps, et je vais compter avec ça les puissances inférieures de l'âme qui sont en contact avec notre corps, la manière dont nous engageons notre corps, notre imaginaire et notre affectivité, cela conditionne, c'est-à-dire cela augmente ou diminue, mais aussi cela ouvre ou bien abîme notre capacité d'aimer. C'est pourquoi la masturbation, la pornographie, les relations multiples ou passagères, les rêves entretenus à outrance, les romans pervers, etc., etc., la liste est évidemment longue et je ne la fais pas, tout cela abîme le seul instrument que nous avons pour aimer. Et cela nuit au véritable amour que nous voulons vivre. Premier point. Deuxième point, en raison de ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'incontrôlabilité intrinsèque de la sexualité, il nous faut beaucoup de délicatesse, de patience, de douceur, et d'abord avec nous-mêmes. Je renvoie à ce que je lisais de Pierre Goursat à l'instant. Il y a parfois des choses très humiliantes, mais ce n'est pas le dernier mot ni de notre vie, ni de notre chemin, ni de la construction de notre sexualité. Je tombe, eh bien, je vous invite à reprendre le texte de Pierre Goursat, il s'applique à mon avis parfaitement. Troisièmement, la sexualité est d'abord une formidable puissance de vie, une propulsion vers l'autre et vers le désir de communion. C'est ça sa richesse. Il y a un très beau livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Tous mes désirs sont devant toi », écrit par un prêtre qui s'appelle Jean-François Noël et qui explore la sexualité et il donne 6 dimensions à la sexualité. La sexualité, ce n'est pas seulement la génitalité. Il y a dans la sexualité bien d'autres dimensions et moi, j'ai retenu que ça, vous voyez, mais la puissance de vie et cette puissance de communion, cette puissance de relation à autrui. Ça veut dire que si je sens que c'est quand même difficile, cette dimension de la génitalité, de réussir à maîtriser, à éduquer, à apprivoiser ma sexualité, le meilleur moyen, c'est pas de s'appliquer là-dessus comment je vais faire pour contrôler ça. Le meilleur moyen, c'est de faire grandir les autres dimensions de la sexualité. Parce qu'alors, ça équilibre. Du coup, eh bien, pour reprendre ça, c'est comment j'accueille, comment j'oriente la vie, la puissance de vie, comment je me laisse porter par elle. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me fait m'écrier avec enthousiasme ? Ça, c'est la vie. Je vais vous le dire comme ça. Putain, c'est la vie. Eh bien, ça, il faut le nourrir, parce que ça équilibre. Ça laisse se déployer cette puissance de vie et de fait ça équilibre. Mais aussi, et je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais l'amitié, les justes relations, le don de moi-même, l'échange d'affection, l'expérience de communion, cela équilibre énormément. Mon conseil, c'est ne cherche pas à... De toute façon, c'est un vrai conseil donc, pour toute la vie spirituelle. Notre premier moteur, ça ne doit pas être la lutte contre le mal. Notre premier moteur, c'est la charité, grandir dans la charité, accueillir le feu de la charité. Ici, eh bien, on peut dire cette puissance de vie, cette puissance de communion. Enfin, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, parce que j'ai encore 2 choses à vous dire. Le point 9, c'est les biens matériels. Les biens matériels, bon, vous êtes entre 25 et 35 ans, la plupart, peut-être même la totalité d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, vous avez pour la plupart d'entre vous un pouvoir d'achat important, vous faites partie... Enfin, je dis pour la plupart parce que c'est pas vrai de tous. C'est pas vrai de tous. Et puis, ça dépend de bien des choses. Mais voilà. Le problème des biens, c'est la sécurité qu'ils apportent et qui font que nous n'avons pas besoin de crier vers Dieu. C'est pareil que les qualités ou que bien d'autres choses. Vous voyez, les biens matériels. Donc, je vais pas répéter, mais... Et c'est ça la vraie question. C'est quelle sécurité et comment ça m'installe dans une autosuffisance qui est un autoréférencement, un autocentrement, parce que nos biens sont une sorte de gloire. En hébreu, gloire, c'est le poids, c'est kabod, c'est le rayonnement. Et en fait, mes biens font partie de ça. Et parce qu'alors, bah, nous n'avons ni besoin ni de rien, ni de personne. Et donc, nous sommes autosatisfaits et c'est horrible. Bon. Si on veut regarder ça dans l'Évangile, moi, je nous invite à comparer 2 passages de l'Écriture dans l'Évangile de Luc. Au Luc, chapitre 12, il y a cet homme qui a fait des récoltes incroyables. Et du coup, cet homme interroge son âme et son âme lui dit « Ta vie est terminée, tu es rassasié. Maintenant, il te suffit de construire des greniers et tu peux t'arrêter là, c'est fini. » Magnifique, génial. Parce qu'il a trouvé son repos dans ses biens, pouf, horrible. Alors qu'en Luc chapitre 15, le jeune homme qui s'est éloigné de son père, qui a tout dépensé, qui a fait la bringue, enfin qui a usé de sa liberté très mal, enfin qui l'a quand même engagé, qui a pris le risque de sa liberté, il se retrouve à poil, sans rien, même pas manger ce qui est donné au cochon. Il rentre en lui-même. Qu'est-ce qu'il trouve ? la figure de son père qui l'attend. Eh bien voilà, chacun peut nourrir son cœur comme il veut. Mais si notre cœur est rassasié de bien, alors il y a ce psaume qui dit « L'homme comblé ressemble au bétail qu'on abat ». L'homme comblé ressemble au bétail qu'on abat. C'est illustré par le chapitre 12 de l'exercice de. C'est ça le problème des biens, c'est que ça nous engraisse, ça crée une couche de graisse autour de notre cœur et tout est bien, tout va bien, nous sommes dans notre petit cocon, notre petit confort, etc. Mais notre âme, elle devient, en tout cas, elle n'est plus à crier vers le Père. Du coup, juste une double question et j'arrête avec ça sur ce point. La première question, c'est comment je donne ? On ne va pas au ciel sans l'aumône, c'est pas possible. Pas moi qui le dis, c'est les pères de l'Église. Comment je donne ? Et bien des pères de l'Église disent que de la prière, du jeûne et de l'aumône, les trois actions de Matthieu chapitre 5, la plus importante, c'est l'aumône. Comment je donne ? Évidemment, la dîme, le denier, mais les associations, comment je donne dans la rue ? Il y a beaucoup de manières de donner, il n'y a pas que c'est bien, mais ici, c'est de ça que je parle. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est quand la dernière fois que je n'ai pas pu acheter ce que je voulais, que j'ai dû attendre. C'est la dernière fois que j'ai dû attendre. Si je n'attends plus quand j'achète quelque chose, alors c'est que je suis devenu tout puissant. Eh bien, je vous invite à faire rewind, marche arrière, parce que si vous êtes tout puissant, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Bon. Dernier point qui est un peu lié à ça, mais c'est la question du pauvre. C'est le chapitre 5 de Dilexitnos, c'est toute l'exhortation apostolique d'Dilexité. Hein, le pape nous dit, et il ne cesse de le redire, c'est lui qui l'écrit dans Dilexité, mais c'est le pape Léon qui nous transmet, mais tu veux aimer Jésus ? Ça, c'est le pape t'interpelle comme ça. Hein. Oui, j'ai bientôt fini. Tu veux aimer Jésus ? Tu veux aimer Jésus ? Jésus a dit, ce que tu n'as pas fait au plus petit d'entre les miens, tu ne me l'as pas fait à moi. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Si tu aimes le plus petit, c'est moi que tu aimes. Si tu ne le fais pas, tu ne me le fais pas. Du coup, ça interroge la place du pauvre dans notre vie. Je ne vais pas en dire plus, vous êtes déjà sollicité sur ce point. Mais voilà, je suis pauvre, vous êtes pauvre, je suis pauvre. L'enjeu de notre vie, c'est comment valoriser cette pauvreté. Nous avons le désir qu'elle disparaisse. Elle ne disparaîtra jamais. Parce que Luc chapitre 18, la parabole du riche et de Lazare, le riche, il montre, il fait bombance. Ce qu'il montre, c'est qu'il est riche, c'est ses beaux vêtements, c'est les plats somptueux qui sont sur sa table. Et il laisse la pauvreté à la porte de chez lui, parce qu'il n'en veut pas, parce que ça l'humilie, parce qu'il veut en être débarrassé. Mais ce qui entre au ciel, c'est le pauvre, c'est la pauvreté. Et le riche, il n'entre pas au ciel. Nous, nous voulons asseler au ciel. C'est la pauvreté qui entre au ciel. Nous voulons laisser la pauvreté à la porte de chez nous. Et c'est la plus grande erreur de notre vie, parce que c'est la pauvreté qui entre au ciel. Du coup, si je veux entrer dans une relation ajustée, apaisée, sereine, un chemin en tout cas, avec la pauvreté de mon cœur, eh bien, il n'y a qu'un chemin. C'est la relation que je construis avec le pauvre qui est à côté de moi. Je m'arrête là. Je ne fais pas de conclusion. Elle est écrite de toute façon dans le document que je vous ai envoyé, à lire dans l'ordre, Dilexitnos 39, puis 38, puis 177, parce que si je veux changer, je ne changerai pas à la force du poignet. Je ne peux changer que si je découvre l'amour de Dieu. C'est parce que Jésus m'aime que je peux changer. Si je veux changer parce que j'ai compris quelque chose, si je veux changer parce que le commandement de Dieu dit ça, ça ne marchera jamais. Je ne peux changer que parce que je le fais par amour de Jésus, parce que j'ai été saisi par son amour. Du coup, je vous invite à ça, parce qu'ici, Jésus dit « Je t'aime » à Paray-Monial. Je m'arrête là. Merci.